Voilà, merci à vous tous d'être présents chez Filigrane. J'ai demandé pendant quelques instants votre attention, j'espère même votre silence, afin d'entendre notre invité du jour qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Alors je sais, il n'y a plus beaucoup de places assises, il y en a encore deux, trois si vous voulez. Ici, notre invité du jour, eh bien, c'est Thierry Janssen. Je crois que je ne dois même pas le présenter parce que certains d'entre vous le connaissent déjà. On le reçoit à l'occasion de l'apparition de son nouveau livre chez Fayard, intitulé « La maladie a-t-elle un sens ?». Alors moi, je suis très heureux de rencontrer Thierry Janssen et de m'entretenir avec lui pour vous, parce que ce qui est intéressant avec lui, finalement, c'est un homme qui ne veut pas nous convaincre, mais qui nous fait réfléchir. Et réfléchir, on en a bien besoin, et également qu'on soit dans le milieu médical ou pas, c'est un homme qui se remet en question, et ça c'est rare aujourd'hui. Des questions, eh bien il en est. Je vais en poser maintenant à Thierry Janssen. Thierry Janssen, bonjour, merci d'être parmi nous.
Bonjour.
Alors, ce nouveau livre, c'est bien sûr la question du sens. Et finalement, je dirais que donner du sens à la vie, que l'on soit malade ou pas, c'est finalement un peu le défi permanent de toute vie aujourd'hui, dans ce monde qui nous paraît parfois complètement insensé.
Ça devient une habitude. À chaque fois que je commence à parler, je respire d'abord. Oui, vous savez, le besoin de sens est un besoin absolument fondamental pour nous tous, pour tous les êtres humains. Et on commence à bien comprendre, même biologiquement, pourquoi nous avons besoin de sens. Parce que, avec toute l'information que nous captons en permanence, si nous n'avions pas trouvé un sens, si nous n'avions pas une représentation organisée de cette information, tout cela nous paraîtrait absurde. Et ça créerait un stress tel chez nous que, devenu chronique, ce stress nous abîmerait, nous fragiliserait. Et donc l'être humain, qui est un être de parole, qui est d'abord un être d'image, de représentation, de mots, de sentiments et de discours, a besoin, face à toute cette information, de l'organiser, de lui donner un sens. Ce qui lui permet bien souvent de trouver une direction à son existence.
Alors Thierry Janssen, d'autant plus que finalement, nous ne sommes pas qu'un corps objet, comme la médecine souvent s'intéresse, nous sommes également un corps sujet. C'est ça aussi qui est important dans la quête du sens, le corps sujet.
Mais disons que la médecine dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, en Occident, dans nos pays modernes, occidentaux ou occidentalisés, est une médecine qui est le reflet d'une certaine vision du monde. Et cette vision est née il y a à peu près 300 ans dans une volonté d'analyser la nature pour la contrôler. Et donc, à force d'analyser les choses, de les disséquer, de les séparer, on en est arrivé à soigner aujourd'hui en considérant le corps comme une mécanique prévisible, comme un objet à objectiver, à comprendre, diagnostiquer et soigner. Mais c'est réducteur. Et donc, quand Freud, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, a rappelé aux Occidentaux que nous n'étions pas que des machines, mais que nous étions aussi des sujets, nous étions des êtres animés d'émotions et de sentiments, eh bien, beaucoup de médecins, enfin, quelques médecins pour commencer, et puis plusieurs à leur suite, au début du XXe siècle, on proposait d'explorer une voie qu'on appelle celle de la psychosomatique, c'est-à-dire qui cherche à soigner l'individu d'une manière globale, non plus comme simplement un corps-objet, mais aussi un corps-sujet, et voir quelle interdépendance il y a entre nos pensées, nos émotions et la santé du corps.
Interdépendance, finalement, c'est un mot important, puisque c'est une complémentarité avec ce que je dirais, moi, la médecine traditionnelle, la médecine habituelle, et les nouvelles tendances d'aujourd'hui qui sont vitalement trouver du sens aux maladies. Il faut faire attention avec cela, il ne faut pas exclure l'un au profit de l'autre, et c'est bien le chemin que vous nous proposez avec cette réflexion, nous faire réfléchir.
Mais moi, les livres que j'essaye de faire, c'est des livres qui sont effectivement plus dans le questionnement que dans la réponse, bien que dans les questions, il y a souvent une partie des réponses ou des voies de réponse, mais ce sont des livres qui, inévitablement, sont en lien avec une autre façon de voir la réalité. C'est-à-dire que, comme la plupart d'entre nous, nés dans cette culture, on m'a appris à analyser les choses, les classer dans des colonnes verticales et finalement comprendre les choses en détail sans toujours voir les liens qui existaient entre tous ces éléments de notre analyse. Et dans ma propre vie, ce fut un piège. Donc j'ai essayé de sortir de ça à titre personnel, à commencer à regarder tout ce que j'étais et tout ce qu'était la vie autour de moi, et automatiquement dans mes réflexions ça transparaît. Mais je ne suis que le produit d'une époque, et je crois que notre époque va fournir de plus en plus d'êtres qui vont chercher à comprendre la réalité autrement, et pas simplement dans cette vision morcelée. Et c'est toute la tendance de nos réflexions, qu'elles soient écologiques. Aujourd'hui, on essaye de comprendre qu'en changeant un élément, on influence plein d'autres. C'est la notion d'interdépendance. Vous savez, quand je séjournais dans les communautés aborigènes, il y avait un instituteur qui se moquait de moi parce qu'il trouvait que j'avais encore une vision très, très morcelée des choses, malgré cet effort que je fais de voir tous ces liens qui existent entre les différents éléments de la réalité. Et ce professeur avait dans le fond de sa classe, dans la communauté où il enseignait, il avait un planisphère qui représentait les 5 continents avec les océans et les 2 pôles. Et il me dit, vous voyez, vous les Occidentaux, vous représentez le monde d'une manière plate. Je dis, mais non, on est bien conscient que le monde est rond. Il dit, non, pas du tout. Parce que quand vous avez un déchet et que vous voulez vous en débarrasser, vous le jetez très 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 loin. Et quand vous ne le voyez plus, vous croyez qu'il a disparu. Parce que vous avez une vision plate des choses. Mais vous oubliez que la Terre est ronde. Et que donc, au plus loin vous jetez votre déchet, il risque de vous revenir dans le dos. Et c'est cette vision-là que nous devons absolument réintégrer dans notre culture. Parce que nous voyons bien les catastrophes se profiler à l'horizon. Qui sont toutes dues à un manque de vision de l'interdépendance des choses. De la reliance entre les choses. Un manque de compréhension de ce qu'est le tissu du vivant. Et donc mes livres, ils viennent parler de ça, effectivement.
Et effectivement, votre questionnement, finalement, il est arrivé beaucoup plus avec vos années de psychothérapeute, finalement, que vos 10 ans de chirurgien. Vous expliquez que finalement, vous êtes plus posé les questions, je dirais même pas les bonnes questions, mais en tout cas plus de questions par rapport au lien avec le sens, la maladie, la souffrance.
Oui, mais en même temps, heureusement qu'il y a eu ces années de pratique de la médecine pure et dure et chirurgicale, parce que vous savez, nous tous, nous ne comprenons les choses que dans le contraste, que par contraste. On comprend le jour parce que nous savons ce qu'est la nuit. Et de la même manière qu'en ayant compris les limites d'une certaine pensée analytique et réductionniste du monde, ben, j'ai pu voir aussi l'intérêt d'ouvrir cette pensée à regarder les choses d'une manière non verticale mais horizontale et reliée. Donc c'est par contraste aussi que dans une vie on évolue, et fatalement je crois que c'est par contraste que nos sociétés évolueront.
Alors évolution, contraste, ce qui est intéressant, je l'ai dit en introduction, c'est que vous remettez également en question ce qui a l'air fondamental, ce qui a l'air naturel, mais c'est pas toujours le cas dans le milieu médical ou dans n'importe quel autre milieu, parce que vous expliquez que dans vos débuts de psychothérapeute, finalement, votre enthousiasme des débuts était peut-être également de l'imprudence, et ça rejoint bien sur l'évolution que nous avons tous à faire, qu'on l'on soit patient, malade ou pas, thérapeute.
Mais c'est le principe du mouvement de balancier. Si vous allez très loin d'un côté, voire dans la caricature, très souvent, la réaction qui s'ensuit est un mouvement qui nous emmène très loin de l'autre côté. Je sais que moi, qui étais quand même assez loin dans cette pratique médicale un petit peu morcelante, morcelée, voire déshumanisée, eh bien, ma réaction a été d'aller très loin de l'autre côté, c'est-à-dire d'aller pratiquer avec des guérisseurs et puis de m'intéresser à des théories qui faisaient du lien entre tout, jusqu'à parfois ouvrir la porte à des théories qui n'était pas fondée, parce que tout ce qu'elle disait dans le détail était sans doute fondé, mais les liens qui étaient établis entre tous ces éléments n'avaient jamais été démontrés. Et donc, à nouveau, il y a un homme qui s'appelait Bouddha qui nous l'a dit, la voie est au milieu. Donc dans ce mouvement de balancier, il faut pouvoir revenir au milieu, et surtout, même si c'est une position pas forcément confortable, et pas tellement valorisée dans nos cultures, faire le pont. C'est-à-dire pouvoir tenir un pied dans un univers et l'autre dans l'autre, et essayer de créer un lien entre ces différents univers, entre ces différentes cultures. Et c'était la posture que j'ai choisie, mais c'est vrai qu'elle n'est pas confortable. Parce que d'un côté, vous avez alors, pour prendre l'exemple médical, des médecins scientifiques qui disent oui, mais vous allez trop loin et vous ouvrez trop des portes et tout ça ne correspond pas à nos visions. Et puis de l'autre côté, j'ai des tas de thérapeutes alternatifs ou complémentaires, comme on les appelle aujourd'hui, qui me disent oh, vous ne nous soutenez pas assez, vous mettez trop en doute certaines de nos pratiques ou vous soulignez trop le fait qu'on n'a pas encore assez de preuves. Mais le but n'est ni de donner raison à l'un, ni de donner raison à l'autre. Le but est de créer un dialogue, une ouverture, de créer un pont. Et fatalement, c'est une position un petit peu moins confortable.
D'où le sous-titre de votre livre, Thierry Janssen, « La maladie a-t-elle un sens ?» Le sous-titre, c'est « Enquête au-delà des croyances », parce que ce n'est pas évident de savoir ce qui relève de la croyance populaire, de la science, par exemple.
Mais en fait, tout est croyance. Même la science finit par véhiculer des croyances qui sont plus ou moins fondées, parce qu'il y a plein d'hypothèses qui ne sont pas forcément démontrées. On dit que c'est des théories, mais ça reste quand même des hypothèses. Et puis, ce sont des représentations du monde en fonction de certaines données, de certains acquis et de certaines habitudes culturelles aussi. Et donc de certains présupposés idéologiques aussi, soyons-en conscients. Donc, toute époque, toute culture, tout humain, même à titre individuel, n'avance que par croyance, par une certaine vision du monde, une certaine représentation de la réalité. Maintenant, j'ai peut-être la faiblesse, j'aime pas le mot faiblesse, mais c'est peut-être une utopie de croire à cela, mais j'y crois. Je pense qu'on peut aller au-delà des croyances et revenir à une sorte de bon sens qui nous met en lien avec la réalité, mais dans ce qu'elle a de plus simple, de plus essentiel. Et donc, plutôt que de soutenir tel discours très sophistiqué, que ça soit issu de la science ou d'autres approches, je pense qu'il faut revenir au bon sens. Mmh. Et alors, très vite, on se rend compte que derrière les discours, derrière ce qui semble nous séparer, parce que nous avons des représentations et des explications différentes à propos de la réalité, nous nous retrouvons tous dans cet essentiel.
Mais se retrouver soi-même, finalement, c'est pas évident, parce qu'on connaît tous les malentendus, je dirais, avec le monde scientifique et nous-mêmes. Avec nous-mêmes, on est déjà dans un propre malentendu, Thierry Janssen, parce que souvent, on parle de nous, de notre corps, comme si c'était une autre personne. Donc ça débute déjà avec nous-mêmes.
Mais les linguistes nous ont montré, et finalement, nous expliquent pourquoi nous sommes dans cette sorte de dichotomie permanente. Simplement parce que l'être que nous sommes, qui est doté d'un langage, qui pose des mots sur les objets de son intérêt, cet être, en utilisant ce langage, en nommant les choses, les sépare. Inévitablement. Il les individualise, il les sépare. Et donc, quand on veut parler de nous-mêmes, qui sommes des êtres multidimensionnels, nous avons une dimension physique, matérielle, mais nous avons une dimension émotionnelle aussi, qui est une sorte d'information qui nous renseigne sur le bon ou le mauvais de tout ce que nous percevons. Et puis, nous sommes aussi des êtres intellectuels qui construisons un discours et des représentations par rapport à toutes ces informations physiques et émotionnelles. Eh bien, pour parler de notre multidimensionnalité, nous devons nommer. Et donc, même un moine bouddhiste qui fait l'expérience profonde de l'unité de l'être ou de l'individu, visibilité de l'être dans l'instant à travers, par exemple, la pratique de la méditation, quand il va parler de son expérience, il va parler de la dimension du corps, il va parler de la dimension de l'esprit ou de la pensée. Et donc, inévitablement, nous nous morcelons en essayant de parler de nous-mêmes. Mmh. C'est un des pièges de notre langage.
Mmh. Et ça, vous l'avez bien perçu, parce que « La maladie est-elle un sens ?» c'est le titre de votre nouveau livre, mais c'est au départ, finalement, le titre des groupes de travail, des groupes de paroles que vous avez créés au départ.
Ah oui, mais oui, parce que, en fait, oui, le titre de ce livre vient effectivement du titre de ces ateliers. Mais l'idée, face à des malades, puisque mon activité aujourd'hui, puisque je ne pratique plus la chirurgie depuis 11 ans, ça fera 11 ans le 5 janvier, et que je pratique plutôt en tant que thérapeute qui accompagne des gens malades physiquement, j'ai été stupéfait de voir d'une part que la plupart des personnes qui souffrent, surtout quand c'est de manière chronique, et il y a beaucoup de maladies chroniques, y compris le cancer, qui pour pas mal de gens est une maladie qui dure longtemps dans ses traitements, et où si on n'arrive pas à la soigner de façon complète, ça dure parfois très très longtemps dans l'évolution des choses. Eh bien, toutes ces personnes, j'ai d'abord été stupéfait de voir qu'elles cherchaient énormément de sens à ce qu'elles vivaient, parce que effectivement c'est un besoin fondamental, mais que quand je pratiquais à l'hôpital, je n'y accordais pas beaucoup d'importance. Et deuxièmement, que dans leur quête de sens, lorsqu'elles essayent d'en parler en milieu médical, elles n'ont pas beaucoup de réponses, hormis le sens biologique des choses. On leur explique ce qui se passe biologiquement. Mais tout ce sens symbolique qu'on a besoin d'attribuer aux choses pour les inscrire dans notre histoire, en fonction de notre passé, en vue d'un futur, eh bien, tout ça a été passé sous silence. Alors ces gens, j'ai constaté qu'ils allaient voir des thérapeutes qui, malheureusement, dans pas mal de cas, leur donnent du sens. Et je me suis dit que c'était pas juste non plus ça. C'est pas juste de pas en parler du sens, mais c'est pas juste non plus de plaquer un sens sur l'existence de l'autre. Il est plus juste d'essayer d'aider l'autre à trouver son sens, son propre sens. Et donc ces ateliers, ils étaient destinés à cela. Et j'essayais, enfin j'essaye encore, de revenir au bon sens. Et je le définis comme le sens qu'emprunte l'information dans notre cerveau. C'est-à-dire d'abord une expérience physique. Nous percevons le monde par nos cinq sens. Et puis une expérience émotionnelle, parce que ces différentes perceptions réveillent des émotions. Positive ou négative, agréable ou désagréable, et puis une expérience intellectuelle, et pas le contraire. Parce que malheureusement, quand on reste au niveau du discours, quand on est dans le blablabla toute la journée, on est capable de dire des choses aussi horribles que « Dieu est amour, il dit de ne pas tuer son prochain, mais si tu ne me crois pas, je te tue ». On est capable de ça. Si on est identifié à notre pensée, à nos croyances, à nos représentations, eh bien nous sommes incapable de lâcher ses croyances et nous sommes capables du pire pour les défendre. Ça fait toutes les guerres de religion dans le monde. Alors que si on revient au bon sens, si on est reconnecté à la réalité, bah, quelqu'un qui tuerait, soi-disant, parce que Dieu a dit qu'il fallait croire en lui et qu'il était amour et qu'on ne peut pas tuer, eh bien, en ressentant la souffrance que c'est de séparer un être d'un autre parce qu'on le tue, en ressentant la souffrance physique et émotionnelle de tout ça, on serait incapable de tuer. Donc c'est par manque de connexion à la réalité que nous devenons des monstres.
Donc finalement, le bon sens, c'est de rester relié à la réalité, de ne pas...
Mais de la même manière qu'aujourd'hui, on entend des gens nous dire « Oui, la pollution, c'est dommage, mais on est bien obligé de continuer parce que le système économique nous le demande. » Mais le bon sens serait de revenir dans la réalité, de voir ce que c'est de boire de l'eau polluée, de voir les conséquences que ça a sur notre santé, de ressentir la souffrance physique et émotionnelle que tout ça peut entraîner, et d'arrêter de croire qu'il faut se sacrifier à une religion qui s'appelle économie. À un moment donné, il faudra qu'on revienne à ce niveau-là. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois et que je me permets d'en parler.
Et que vous en parlez également à travers la médecine, puisque c'est votre domaine. Finalement, pensez autrement, la médecine, c'est le travail d'une vie, c'est le travail de votre vie, Thierry Janssen.
Non. Ben, vous savez, je pense que la première chose qui est importante dans l'existence, c'est de ne pas s'identifier à ce qu'on fait. Donc moi, j'essaye, parce que parfois on tombe dans ce conditionnement verbal que nous avons tous, de ne jamais dire « je suis médecin » ou « je suis auteur ». Non, je fais médecin, je fais thérapeute, je fais auteur. Je fais des choses, mais je suis un être qui fait ces choses. Mais du coup, je suis libre aussi un jour de ne plus les faire. En attendant, je suis libre aussi de choisir certaines choses que j'ai envie de faire et qui me paraissent avoir du sens par rapport à ce que je suis, ce que je ressens, et surtout par rapport à une histoire. Alors, puisque mon histoire, elle a été en lien par rapport à un intérêt pour les autres, à travers qui je découvrais aussi mieux qui j'étais, puisque mon histoire m'a amené à soigner, ou en tout cas proposer aux autres des voies de guérison, eh bien, il me semble aujourd'hui logique de continuer à faire ça. Mais il est tout à fait possible qu'un jour, je décide de faire totalement autre chose.
En tout cas, aujourd'hui, ça passe par les livres, également votre travail de rencontre. Alors, on ne va pas la faire trop longue, là, publiquement, parce qu'il y a beaucoup de monte et de brouhaha. Mais Thierry Janssen nous fait le plaisir de rester parmi nous pour vous rencontrer, pour en discuter avec vous, peut-être de façon plus intimiste, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Pour terminer, Thierry Janssen, il y a une très belle citation, finalement, à ce livre qui résume peut-être bien, je vais dire, votre philosophie, ou en tout cas le sens à donner à ce livre. C'est la citation de Vaclav Havel que vous avez décidé de mettre. Alors, je ne sais pas si vous voulez la lire vous-même.
Oh, je la connais par cœur.
Voilà, dites-moi, parce que moi, je ne la connais pas par cœur.
Vaclav Havel, qui est quand même un très bel auteur, un bel écrivain. Parce que moi, je suis un auteur, j'écris sur des sujets, mais il y a des gens qui sont des écrivains, qui travaillent le propos et la forme du propos. Mais Vaclav Havel a dit une très jolie chose par rapport au sens et à l'espoir. Il a dit, vous savez, avoir l'espoir, ce n'est pas croire que les choses vont se produire bien. Avoir l'espoir, c'est penser que les choses auront un sens. Et en fait, c'est vrai que je le sais dans ma propre vie, mais surtout aussi dans la vie de personnes que j'ai pu accompagner, même dans des situations désespérées, même quand effectivement la mort est là à la porte et qu'on sait qu'on ne va pas vivre très longtemps, le fait d'attribuer un sens à ce qu'on est en train de vivre génère un espoir. Simplement, quelqu'un qui est en fin de vie et qui peut se dire que sa vie n'a pas été vaine, que ça va peut-être servir ce passage à ceux qui suivent, et bien tout d'un coup, il y a une autre chose qui s'installe en nous, il y a une pensée plus positive, il y a une émotion plus agréable qu'on appelle l'espoir, et ça permet de survivre. Biologiquement, on sait qu'on a besoin de cette émotion-là, parce qu'elle génère des forces de réparation, de régénération, elle génère des défenses immunitaires. Et l'être humain, nous ne serions pas là pour nous rencontrer cet après-midi si avant nous, il n'y avait pas eu des générations, des centaines de générations de gens qui ont essayé de trouver un espoir en donnant du sens à ce qu'ils vivaient. Et peu importe que ce sens ait abouti à construire des cathédrales, des pyramides, à s'inventer un paradis, peu importe, il fallait pouvoir trouver un sens pour qu'il y ait un espoir, pour continuer l'aventure humaine. Et le jour, tant que nous avons cet espoir, nous pourrons continuer notre aventure. Mais il vaudrait mieux que ça soit en contact avec le bon sens, parce que si nous délirons trop, nous risquons de créer des conséquences qui nous empêchent de la continuer. Et ça serait bien dommage.
En tout cas, cette transmission, eh bien, elle passait aujourd'hui par votre présence, par rapport à vos paroles, paroles écrites également à travers le livre, puisque finalement, c'est un ce sont les plus belles lueurs d'espoir. C'est également les livres qui nous permettent de les lire lentement, de les faire résonner par rapport à notre intériorité chacun.
Vous savez, un livre, enfin, moi, c'était l'objet quand j'étais enfant qui me fascinait le plus. Et donc, je suis content de pouvoir en fabriquer quelque part. Mais un livre, c'est un objet sacré. Je veux dire par là qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des arbres qui ont été déracinés pour fabriquer de la pâte à papier. Que, oui, mais ça n'a l'air de rien. Mais que donc, quand on se permet d'écrire une ligne dans un livre, il s'agit d'écrire quelque chose qui vraiment fait sens pour nous et que nous croyons que ça peut faire sens pour les autres. Parce que sans ça, on n'est absolument pas cohérent par rapport à son intention de revenir au bon sens.
Voilà, Thierry Janssen, un très grand merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous tous d'être là. Et maintenant, je vais vous céder la parole en intimité avec Thierry Janssen. Merci à vous.